Bonsoir, voici donc notre deuxième conférence sur Saint Jean Cassien. Dans la première, nous avons en quelque sorte dressé le tableau d'ensemble, la toile de fond sur laquelle Saint Jean Cassien va évoluer. Et maintenant, nous allons nous focaliser progressivement sur son action. Mais avant, je voudrais introduire un nouveau personnage qui va jouer un rôle assez important. Je veux parler d'Évagre le Pontique. Et vous allez voir pourquoi tout de suite. Évagre le Pontique, donc, qui est originaire du Pont, c'est-à-dire de la Turquie actuelle, arrive en Égypte en 383 pour y mener une vie monastique. Il est détenteur d'une solide formation. Il a été à l'école des plus grands théologiens de son époque, en particulier Basile de Césarée et Grégoire le théologien ou Grégoire de Nazianze, qui l'a élevé au diaconat et qui l'a accompagné à Constantinople en 379. Il a séjourné en Palestine auprès de Mélanie et de Rufin, qui sont des grandes personnalités de l'époque, qui sont aussi des grands lecteurs d'Origène et des Cappadociens, et ceux-ci vont l'orienter vers l'Égypte, l'Égypte qui apparaît vraiment comme étant le berceau du monachisme. À Alexandrie, Évagre a sans doute rencontré un autre personnage qui s'appelle Didyme l'Aveugle, mais il va très rapidement gagner les sites monastiques, et en particulier le site de Nitri, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres d'Alexandrie, et il finira par se rendre au Kélia vers 385. Évagre y passera les dernières années de sa vie, et il composera sur ce site la totalité de l'œuvre qui nous est parvenue. Il fut très influencé par le grand Macaire, qui lui-même avait connu Saint-Antoine et qui vivait à Cété, qu'il avait fondé. Et il fut influencé aussi par un autre Macaire, Macaire alexandrin, qui était le père spirituel et le prêtre d'Ekelia. Il rejoindra le groupe des moines lettrés d'Ekelia, que l'on appelait les longs frères, le plus connu d'entre eux étant Ammonios, et leur aîné, Dioscore, deviendra l'évêque de la ville dont dépendait le désert de Nitri, dont je vous ai parlé la dernière fois. Et c'est aussi à cette communauté que s'agrégea plus tard Pallade, qui fut l'auteur de l'histoire losiaque, quand il arriva au Kélia en 390. Tous ces moines sont des fervents lecteurs de la Bible et d'Origène. Ils sont en relation avec Mélanie et Rufin en Palestine, et Évagre entretiendra une correspondance avec eux. Progressivement, Évagre va acquérir une influence déterminante sur ce groupe. Il va devenir un maître spirituel, développant un enseignement fondé sur l'exégèse de l'Écriture à la suite d'Origène. Cependant, et c'est là une des caractéristiques aussi de son œuvre, c'est qu'il va éviter d'évoquer les thèses d'Origène directement. Il considérait qu'elles devaient être divulguées uniquement à des moines avancés et que dans un premier temps, il fallait surtout s'appliquer à la pratique ascétique. Et donc, toute son œuvre ascétique est fort peu marquée par ses thèses originistes. Ces thèses d'Origénistes, d'ailleurs, ne sont pratiquement plus conservées en grec, mais on les trouve dans d'autres langues, et en particulier en syriaque, et en particulier dans un grand traité qui s'appelle les chapitres gnostiques, les Kephalaya Gnostica. La doctrine ascétique d'Évagre s'articule autour de deux conceptions qui sont celles du christianisme de l'époque. D'une part, une compréhension de l'incarnation, qui est celle de tous les chrétiens, comme étant un rétablissement de la relation entre Dieu et la nature humaine, et d'autre part, un dynamisme interne à l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image est un acquis propre à la nature humaine. En revanche, la ressemblance est précisément ce qu'il faut acquérir. La divinisation de l'homme est donc le but de l'incarnation. C'est ce qu'Athanase, à la suite d'Irénée, ne cesse de répéter. Le Fils de Dieu est devenu homme afin que nous devenions Dieu en lui, ou dans son traité sur l'incarnation, car il s'est lui-même fait homme pour que nous soyons faits Dieu. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'une divinisation selon la nature, mais d'une participation par grâce à la nature divine. Le dynamisme de la nature humaine à l'image et à la ressemblance de Dieu peut se déployer précisément en raison de l'incarnation du Christ. Car comme le déclare déjà Irénée de Lyon, lorsque le Logos devint visible par son incarnation, il a montré que l'homme était vraiment son image. C'est dès lors par nature que l'homme est image du Verbe. Il a été créé à l'image de l'image, cette image étant le Logos, et les hommes sont destinés à reproduire l'image du Fils, comme le dit saint Paul. Le Fils étant pour Évagre connaissance essentielle du Père. Par le péché d'Adam, l'homme n'a pas perdu cette potentialité, cette image, pas plus qu'il ne veut perdre sa nature. En revanche, sa ressemblance en a été affectée. L'incarnation rétablit la possibilité d'une ressemblance avec Dieu. Pour les pères d'Alexandrie, ce qui en l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est la partie la plus spirituelle de l'âme humaine, ce qu'ils appellent le nous, que l'on traduit malheureusement par intellect, mais qui n'a rien d'intellectuel. Cette partie de l'âme, c'est la partie immatérielle de l'âme. Et lorsque l'âme se débarrasse de toute la souillure du péché répandu en elle et ne garde dans sa pureté que la ressemblance de l'image, alors sans doute, quand cette image est illuminée, elle y contemple comme dans un miroir le Verbe, image du Père, et en lui contemple le Père, dont le Sauveur est l'image. C'est tiré du traité contre les païens de cet Athanase. Ainsi, lorsque l'intellect, le nous, est purifié des passions qui l'assaillent, il peut se tourner vers le Logos, à l'image duquel il a été créé, et réaliser ainsi la vocation de l'homme en participant par grâce à la nature divine. Pour Évagre, ce qui importe, c'est moins le fait que l'intellect soit immatériel que le fait qu'il soit susceptible de recevoir cette ressemblance. La conception dominante de l'âme que l'on trouve chez les pères de l'époque est traditionnelle. L'âme est composée de parties, ou mieux, de puissances, parce que partie implique une séparation, alors que puissance n'en implique pas. Il y a d'une part une puissance désirante, qui est à la base de l'être humain, qui est à l'origine de la croissance, qui est de la reproduction, elle caractérise le règne végétal, le règne animal et l'homme. La puissance irascible, par ailleurs, donne aux êtres leur ardeur et leur imagination. Elle caractérise les animaux. Enfin, au sommet de la pyramide, se situe l'homme qui est le seul à posséder une âme rationnelle. Mais il faut distinguer l'âme rationnelle du nous. C'est une faculté de l'âme qui est créée et qui permet à l'être humain de saisir les réalités spirituelles. L'ascèse pour Évagre suppose une christologie implicite, car ce n'est que parce que le Christ a vaincu les passions. Et c'est très important de dire ça, parce que même s'il ne fait pas référence tout le temps à cette christologie, elle est sous-jacente à son enseignement. Ce n'est que parce que le Christ a vaincu les passions que l'ascèse monastique a un sens. C'est par l'incarnation que le moine peut, en quelque sorte, se revêtir de l'esprit, ça. C'est donc une réinterprétation chrétienne qui se fonde sur une conception de l'homme et de son destin. Ce ne sont pas les efforts de l'homme qui sont dominants, mais bien la grâce divine, qui, en agissant en communion avec les efforts de l'homme, en synergie, comme disent les pères, le transforme. Liberté, communion, caractérisent la cesse chrétienne. Il faut bien voir que, dans ce processus ascétique, c'est une libération, en fait. L'homme qui est passionné, l'homme qui est soumis aux passions, n'est pas vraiment un être libre. Cela, tout le monde peut le comprendre. Il faut comprendre aussi, je crois, l'extraordinaire nouveauté du message chrétien. Nous sommes donc au IVe siècle. La conception dominante, c'est que l'homme est dominé, lui aussi, par des forces. Il est dominé par le destin, il est dominé par les astres. Dire que l'homme est libre et qu'il peut, en quelque sorte, se libérer, c'est une nouveauté extraordinaire. C'est donc un Dieu libre qui vient à la rencontre d'un homme libéré. La première phase de cette libération, de ce processus en quelque sorte, c'est ce que les pères appellent l'hésychia, H-E-S-Y-C-H-I-A. Hésychia, ça veut dire simplement tranquillité en grec. C'est simplement le fait de se retirer, de s'éloigner, de se mettre un petit peu de côté. Désormais, le moine est moins sollicité par les choses du monde, puisqu'il s'abstrait en quelque sorte de la réalité du monde, mais il est sollicité par des forces intérieures, il est sollicité par les pensées. Et la prière hésychaste se situe dans ce contexte. On peut dire qu'elle est au centre de sa spiritualité. Le moine, en progressant vers sa prière, dans sa prière, oriente sa prière vers une prière où il va, en quelque sorte, s'éloigner de toute représentation. C'est ce que les pères vont appeler la prière pure. Et c'est dans ce mouvement, en quelque sorte, de purification, d'éloignement de toute représentation, que Dieu va se communiquer à l'homme. Elle caractérise la spiritualité orientale tout étant lié à une pratique ascétique. C'est un passage aussi du Christ incarné au Logos, qui dépend d'une progression spirituelle. C'est un passage du matériel vers le spirituel, qui permet de saisir les réalités spirituelles. D'Évagre à Diadoque de Phocicée, on le verra par la suite, la prière hésychaste va évoluer et va perdre en quelque sorte ses influences origénistes pour être recentrée dans le cadre de la tradition, et on va y revenir. C'est intéressant. L'être humain, dans un premier temps, doit se libérer des passions. Qu'est-ce que c'est que les passions ? Ce sont les mouvements mauvais de l'âme humaine. C'est ce qui perturbe, en quelque sorte. La première phase de la vie ascétique est ce que les pères appellent la vie pratique, qui est une purification de la partie passionnée de l'âme. Cette partie susceptible de passion, ce sont la partie désirante dont on a parlé et la partie irascible et l'ardeur. Cette lutte contre les passions mauvaises permet au moine d'acquérir un contrôle relatif des émotions. C'est ce qu'Évagre nommera l'impassibilité, apatia, un terme qui va être pris dans toute la tradition orientale, jusqu'à Saïwar Palama, c'est même plus loin. L'apatia, l'impassibilité, signifie une maîtrise partielle, évidemment, parce que c'est jamais une maîtrise totale, des émotions. C'est une coopération plus étroite avec la grâce divine. C'est aussi le fait d'une ouverture. L'être humain peut s'ouvrir. Il peut s'ouvrir au monde, il peut s'ouvrir aux autres. Il n'est plus dominé par les passions. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce mouvement, en quelque sorte, de floraison, d'ouverture, que l'être humain peut commencer vraiment à exprimer son amour pour les autres. Pour Évagre, impassibilité et amour sont liés. C'est très important, ça. Et c'est pas simplement pour Évagre, ça va rester comme cela pour toute la tradition orientale. Le vocabulaire d'Évagre va être repris par tous les pères par la suite. Et bien sûr, ils vont apporter chacun des compléments, des approfondissements, etc. Mais c'est très important de bien saisir ça. Et en même temps, le fait d'être libéré, le fait d'être ouvert au monde, ouvert aux autres, permet en quelque sorte le développement d'une deuxième phase de la vie spirituelle qu'on peut appeler contemplative. C'est ce que les pères appellent la theoria ou la connaissance, gnosis, on trouve les deux mots. Cette participation progressive au plan de Dieu induit une modification du rapport aussi bien avec le monde qu'avec les autres. Il permet de voir dans la création les intentions de Dieu. C'est-à-dire que le regard que le spirituel, à ce moment-là, porte sur la création est différent. Il ne voit plus un monde qui est à dévorer, en quelque sorte, qu'il doit s'approprier, mais il voit un monde où s'expriment, en quelque sorte, les intentions de Dieu et auquel il peut collaborer d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il peut agir dans le sens où Dieu le veut. Ces intentions, c'est ce que les pères ont appelé les logoi. Il s'agit bien sûr, en premier lieu, de voir les intentions de Dieu dans les êtres matériels, puis de s'élever vers les êtres spirituels dans un mouvement d'union de plus en plus étroite avec Dieu. Et c'est précisément cela que les pères appellent la théologie. Qui, loin d'être une activité discursive, est une participation de plus en plus étroite avec Dieu, en fait, et avec la connaissance essentielle de la Trinité. Ainsi, le moine a une visée eschatologique et anticipe ici-bas un statut céleste dont il reçoit les arts. Je voudrais vous montrer simplement ici un petit tableau que vous trouverez d'ailleurs sur le site par la suite. Et je vous conseille de le regarder, de le télécharger sur le site, parce que tout le vocabulaire que vous trouverez ici va être employé en permanence par les pères. Vous voyez que vous avez d'une part les puissances de l'âme. Vous avez d'abord la puissance fondamentale qui pousse l'homme à se développer et à se reproduire. On peut appeler le désir, j'ai appelé ici le désir. Son nom semi-savant, c'est le concupiscible. Pour la capacité de réagir, ou l'ardeur, qui caractérise aussi les animaux. La capacité rationnelle, qui caractérise l'homme en propre, et aussi le nous, qui lui permet de saisir les réalités spirituelles. Cette conception de l'âme est traditionnelle. Elle a de longues, origine ancienne, on la trouve déjà plus ou moins chez Platon, mais elle est considérablement réélaborée par les milieux chrétiens. Pourquoi ? Parce que ils parlent de cette conception de l'âme traditionnelle. Sur cette conception de l'âme, ils vont articuler les différentes passions qui sont susceptibles de nous éloigner, en quelque sorte, ou de nous dominer. Ainsi, pour le désir, les passions les plus primaires, en quelque sorte, la gloutonnerie, la fornication, l'avarice, ainsi pour l'ardeur, la tristesse, la colère, la sédie. Là, j'y reviendrai plus tard, parce que c'est une passion assez particulière. On peut dire que c'est une forme d'ennui dépressif. La capacité rationnelle, qui, elle, est plutôt soumise aux passions de la vaine gloire et de l'orgueil. Vous voyez que chaque puissance de l'âme est susceptible d'être soumise à des passions. Et qu'en fait, plus on avance aussi dans ces puissances de l'âme, plus les passions se font subtiles. Si les passions premières peuvent être relativement dominées, il devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que le moine progresse de dominer les autres. Et la passion la plus redoutable pour les pères, parce que c'est la plus subtile, c'est l'orgueil, c'est la vaine gloire, le fait de se mettre en avant, voilà, parce que ça coupe de tout, ça coupe de Dieu, ça coupe des autres. D'où cette articulation, vous voyez que Évagre fait rentrer à ce moment-là sa perspective ascétique. D'une part, les ikkhya, ou quiétude, avec la lutte contre cette première partie passionnée de l'âme, le désir et l'ardeur, qui arrive à l'impassibilité, l'apatia, et à l'agapé chrétien, c'est fondamental, l'amour chrétien. À ce moment-là, le spirituel progresse dans une deuxième phase, qui est celle de la vie contemplative, la première phase étant celle de la vie pratique. La pratique étant la lutte contre les passions de la partie passionnée de l'âme, la vie contemplative où l'on va progresser de la contemplation des êtres matériels vers la contemplation des êtres spirituels. Il va de soi que ce mouvement, en quelque sorte profond, de la vie ascétique est lié aussi à la prière. C'est-à-dire que la qualité de la prière, la profondeur de la prière, va aller en s'approfondissant au fur et à mesure que le spirituel, le moine, va progresser dans sa vie. Et le sommet, en quelque sorte, de cette vie spirituelle, c'est la théologia, c'est la théologie, c'est-à-dire, c'est en quelque sorte la participation à la vie divine qui se fait au travers de la prière pure. En fait, on peut dire que la prière pure, c'est une forme, c'est un moment où la déification se réalise dans l'homme, tout simplement. En fait, qu'est-ce que fait Évagre ? Évagre est un très grand ascète, et c'est aussi un très grand intellectuel. Et donc, il essaye de retranscrire ce qu'il voit, c'est-à-dire en fait la vie des pères du désert, au travers du langage et des conceptions de son temps, ceci bien sûr dans une optique chrétienne. Voilà. Et on peut dire que c'est particulièrement important parce que, encore une fois, tout ça, tout ce tableau, tout ce vocabulaire va se retrouver chez tous les pères, et en particulier dans la philokalie. Alors, bien sûr, Évagre, dans un premier temps, est influencé par l'origénisme. Mais, encore une fois, il ne manifeste pas trop ses conceptions origénistes dans son enseignement ascétique. L'origénisme était caractérisé par le fait, en gros, je ne peux pas trop m'étendre, si vous voulez, on pourra y revenir dans la discussion, parce que sous des influences platoniciennes, il admettait une double création. Les êtres ont d'abord été créés rationnels ou logikoi, puis une rupture est intervenue dans cette création et les êtres ont chuté. Et ils sont devenus matériels à différents niveaux. les plus matériels étant les démons, un peu moins matériels étant les hommes, au-dessus étant les anges. Donc vous avez une chute à différents degrés. Et puis, vous avez dans ce mouvement de remontée en quelque sorte vers Dieu, et Dieu avait prévu en quelque sorte cette chute, par l'incarnation, les êtres peuvent rétablir leur statut originel au travers d'une succession de mondes ou d'éons. C'est l'apokatastase, désolé, c'est un mot un peu barbare, apokatastase, A-P-O-C-A-T-A-S-T-A-S-E, apokatastasis originis. Et si la tradition de l'Église va reprendre l'enseignement ascétique des vagues, elle va bien sûr en exclure tout ce qui, toutes les spéculations, en quelque sorte, sur les fins dernières. Après cette brève présentation des vagues, j'en viens à maintenant à Jean Cassien. Jean Cassien, Saint Jean Cassien, vers 360, vers 435, va recueillir cet héritage tout en le modifiant sur des points très importants. Il est d'origine roumaine, de culture latine, il a reçu une culture soignée et connaît bien le grec. Après un séjour en Palestine, il va se rendre en Égypte en 380 en compagnie de son ami Germain et séjournera auprès des vagues, mais il devra quitter l'Égypte à la suite de la première condamnation des vagues en 399 par le patriarche d'Alexandrie. Cette première condamnation eut lieu juste avant la mort de celui-ci, qui est en 400. Il ne mentionnera jamais dans ses écrits Évagre ou Origène. Saint Jean Cassien va se rendre alors à Constantinople auprès de Saint Jean Chrysostome. Puis, entre 405 et 419, il va séjourner à Rome auprès du pape pour défendre Jean Chrysostome. Celui-ci se heurte à diverses oppositions, dont celle du patriarche d'Alexandrie Théophile. Il va rester une dizaine d'années à Rome. Plus tard, à la fin de sa vie, il sera sollicité par le pape Léon pour écrire un traité sur l'incarnation. Et ce traité est particulièrement important, parce que ce n'est pas une œuvre occasionnelle, mais c'est bien une récapitulation d'éléments que l'on trouve dans toute son œuvre. Et d'autre part, cela prépare en quelque sorte le concile de Chalcédoine. Ça jouera un très très grand rôle. Il va s'en prendre surtout à Nestorius et au nestorianisme, qui tendait à séparer dans le Christ l'humanité de sa divinité. Quittant Rome, il se rendra à Marseille, donc nous sommes 419-435, où il fondera deux monastères, un monastère de monial et un monastère de moines. Son influence va s'étendre rapidement et des personnalités religieuses comme Castor d'Ap et Honora, fondateur de l'Hérens, le solliciteront pour qu'il écrive ses ouvrages monastiques. Alors là, c'est très intéressant parce que il va écrire deux sortes d'ouvrages. D'une part, les institutions cénobitiques. Comme il le dit, les institutions cénobitiques s'adressent à l'homme extérieur et s'adressent aux débutants engagés dans la pratique. Et là, nous retrouvons le vocabulaire des vagues. C'est-à-dire que la pratique, c'est la première phase de la vie spirituelle. Et ce que Cassien appelle d'ailleurs la scientia actualis. Alors que les conférences spirituelles, sont destinées à des moines plus avancés et engagés dans la contemplation ou connaissance des vagues, on pourrait prendre ces termes, que Cassien lui-même nommera scientia spiritualis, ou spiritualis comme on dit à l'époque. Ainsi, la démarche de Cassien se fonde moins sur une opposition rigide entre une vie cénobitique ou une vie érémitique, que sur un passage entre les observances ascétiques extérieures qui concernent les premières phases du combat monastique pour ensuite se tourner vers les phases, les aspects les plus avancés de son enseignement, qui sont la prière pure et ininterrompue, qui relève de l'homme intérieur. Et bien au contraire, une fascination irraisonnée pour la vie en solitaire est pour lui un signe d'immaturité. Venons-en un petit peu à l'enseignement de saint Jean Cassien. Il va reprendre en gros l'enseignement ascétique des Vagres, mais il va écarter tout ce qui le sépare de la tradition de l'Église. Et on peut dire que c'est un principe fondamental qu'il exprime dès le début des institutions. Voici ce qu'il dit. « Tout ce qui, chez les serviteurs de Dieu, est retenu par un seul ou par une minorité, mais n'est pas possédé par tout le corps de la fraternité, tout cela est superflu ou prétentieux et doit pour cette raison être jugé mauvais et comme une manifestation de vanité plutôt que de vertu. La tradition, pour lui, est un critère de discernement décisif et de continuité au sein des débats, qui sont nombreux, qui agitent le début du christianisme. En ce sens, elle exprime une vision historienne et inspirée. Il intègre aussi bien la visée eschatologique que christologique d'Eva, tout en lui donnant une nouvelle interprétation plus compatible avec la tradition. Comme il le déclare dès sa première conférence, la fin de notre profession, c'est-à-dire notre mode de vie, notre ascèse, est le royaume de Dieu, ou royaume des cieux. Mais notre but est la pureté du cœur, sans laquelle il est impossible que personne n'atteigne cette fin. Il simplifie le schéma des Vagres, qui faisait une distinction entre deux royaumes, royaume des cieux et royaume de Dieu, et il remplace la notion d'impassibilité à résonance philosophique, et qui était contestée par Jérôme, par celle plus évangélique de pureté du cœur, qui fait référence bien sûr aux béatitudes, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Cette pureté, puritas cordis, doit être le terme de nos actions, auquel il convient de rapporter les autres pratiques ascétiques, car on gagne moins par un jeûne que l'on ne perd par un mouvement de colère, dit-il. Et donc, tout ce qui peut troubler la pureté et la paix de notre cœur doit être évité comme quelque chose de très nuisible, de quelque utilité ou nécessité qu'il paraisse par ailleurs. Les privations ascétiques ne sont pas un but en soi, et les épreuves ascétiques ne sont rien si l'on n'y associe pas l'amour dont parle saint Paul, cet amour pour Cassien, est le fond même de la pureté du cœur, qui englobe aussi bien l'ésitia des Vagres que l'agapé. Son enseignement s'articule sur un approfondissement de la méditation de l'Écriture, qui se traduit par un passage d'une méditation qui part d'un sens matériel pour progresser vers un sens spirituel. Le fondement théologique de cette lecture de l'Écriture, c'est la compréhension de la double nature du Christ, que le moine contemple progressivement dans la mesure où la purification de son cœur s'approfondit. Le texte de l'Écriture a le même statut. Il est à la fois historique et spirituel. En ce sens, il est une méditation entre la fragilité humaine et le désir de communion avec Dieu. La création dans son ensemble ne trouve de sens que par rapport à Dieu. Si rien n'est stable par soi-même, si rien n'est immuable, si rien n'est bon que Dieu seul, si nulle créature ne peut obtenir la béatitude de l'éternité et de l'immuabilité par sa nature propre, mais seulement par une participation de son Créateur et par grâce, Toute bonté créée s'évanouit comparée à la bonté du Créateur. L'enseignement de saint Jean Cassien s'inscrit dans une dynamique qui est aussi un approfondissement de la contemplation et de la prière en fonction du progrès dans la vie monastique. Cet approfondissement est aussi une simplification, un passage de la contemplation multiple du monde vers celle unifiée de Dieu. La création, comme l'Écriture, est un habit du Logos qui nous fournit aussi des opportunités pour nous élever vers Dieu, en passant de la matérialité du sens littéral vers le spirituel, selon la purification de chacun. C'est la vertu de l'action qui réalise celle-ci, et non la vaine jactance. Pour lui, la vie spirituelle est essentiellement expérience et pratique. L'essentia actualis, qui correspond donc à la première phase de cette vie spirituelle, permet d'obtenir la contemplation et elle se comprend comme un renoncement aux choses comme aux idées des choses. Car, dit-il, il est impossible que l'âme, occupée même légèrement des soins de ce monde, mérite le don de la science. Je voudrais vous montrer un petit tableau que j'ai essayé de faire par comparaison avec Évagre. La vie ascétique selon saint Jean Cassien. Vous voyez qu'il est beaucoup plus simple, en fait. Il s'articule aussi sur la conception des puissances de l'âme et des passions. Et saint Jean Cassien sera aussi mènera une grande réflexion sur les passions de l'âme, qui d'ailleurs subsisteront et seront même présentes dans la philokalie grecque. Et vous voyez qu'il distingue deux phases de la vie spirituelle, l'une qui concerne l'homme extérieur, l'autre qui concerne l'homme intérieur, et qu'entre les deux, au lieu de la notion d'apathia ou d'impassibilité, il introduit la notion de puritas cordis, de pureté du cœur. C'est donc deux moments, deux phases, pourrait-on dire, la scientia actualis, la vie pratique, et la scientia spiritualis, et la vie contemplative. Et bien sûr, le moment, disons, la progression se fait dans la prière et mène le moine, là aussi, vers ce que saint Jean Cassien appellera la prière de feu, mais on va y revenir. C'est donc une progression, une montée, en quelque sorte, une montée vers Dieu. Et on voit que l'époque se prête justement à beaucoup de débats. Il y a Nestorius, il y a le traité sur l'incarnation contre Nestorius, qui à cet égard est tout à fait significatif. Et il y a aussi, par exemple, une querelle qui va éclater parmi les moines de Cété, ce qu'on a appelé la querelle anthropomorphiste. À cet égard, une anecdote est significative. Elle est rapportée dans la conférence 10. Comme beaucoup de moines de Cété, là-bas, Sérapion interprétait le verset de la Genèse. Dieu dit « Faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance » d'une façon littérale et pensait qu'il fallait se représenter Dieu sous une forme humaine. Cassien est particulièrement violent contre cet anthropomorphisme qui pour lui constitue un grossier blasphème et un grave détriment pour la foi catholique. Bien sûr, la conception de Cassien s'intègre dans sa christologie, comme on vient de le voir. Et c'est aussi pour cette raison qu'il s'opposera à Nestorius. Le problème était tout à fait réel à l'époque, au point qu'au VIe siècle, le patriarche Timothée Ier de l'Église nestorienne ira jusqu'à déclarer dans un synode réuni contre les mystiques que l'humanité du Christ elle-même, si glorifiée qu'elle soit, ne peut voir sa divinité. La théologie nestorienne, dans son souci de garantir la transcendance de Dieu, veut la préserver de tout mélange avec le créé et le limité. Il n'est pas impossible, comme l'a suggéré Antoine Guillaumont, qu'en Égypte, la querelle anthropomorphiste ait été déclenchée par la notion de prière pure des vagues et de ses partisans. La représentation mentale faisant obstacle à la contemplation de Dieu. Mais il distingue entre les concepts qui génèrent des représentations dans l'intellect de ceux qui n'en génèrent pas. C'est-à-dire, si je parle de quelque chose d'abstrait, vous n'aurez pas l'intellect bloqué par une représentation. Si je vous parle de quelque chose de concret, vous aurez l'intellect qui sera bloqué par cette représentation. C'est ça qu'il veut dire. La position des vagues peut aussi être interprétée dans le cadre de la théologie de son temps. L'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image du Fils. Cette image qu'est l'intellect se définit avant tout comme une capacité de réception de la monade trinitaire. Le baptême renouvelle cette image présente dans l'homme en l'inscrivant dans un processus tel qu'à la fin des temps nous serons à l'image du Fils qui est connaissance essentielle du Père. Les spirituels syro-orientaux, s'opposant au clergé officiel, insisteront beaucoup sur ce point et iront même jusque dire qu'il est impossible d'entrevoir le visage du Père si ce n'est qu'à travers le Christ. Ils s'appuieront en particulier sur un passage de saint Paul selon la traduction de la Pshita, qui est la version syriaque de saint Paul, qui parle de la transfiguration du visage du Christ glorifié à l'intérieur du cœur. Les homélies macariennes exprimaient déjà une conception semblable. Pour Évagre, dans la prière spirituelle, l'intellect à l'image du Fils dialogue avec le Père sans intermédiaire. C'est pourquoi il explique « Celui qui prie en esprit et en vérité ne tire plus des créatures les louanges qu'il donne au Créateur, mais c'est de Dieu qu'il loue Dieu. » Cette prière sans représentation est aussi une prière dans la lumière. Quand l'intellect est parvenu à la prière pure, donc troisième étape après la pratique et la contemplation, il est dans une lumière sans forme, qui est appelée lieu de Dieu. Si quelqu'un veut voir l'état de l'intellect, il se prive de toutes les représentations, et alors il le verra pareil au saphir ou à la couleur du ciel, et faire cela sans l'impassibilité est une chose impossible. Cette lumière était une lumière divine répandue sur l'intellect. Cette expérience de la lumière était assez fréquente, assez commune à Cété. Et Évagre, d'ailleurs, ira consulter un grand spirituel de l'époque, qui s'appelle Jean de Lycopolis, pour l'interroger sur le sens de cette vision. On notera d'ailleurs que Évagre ne récuse pas toute représentation, mais uniquement celle qui n'ouvre pas sur une transcendance. Il utilise d'ailleurs pour l'exprimer les expressions tirées de l'Écriture et surtout des théophanies de l'Exode ou de la vision d'Ézéchiel, comme le lieu de Dieu ou le pavement de sa fille. Cependant, même si la mystique évagrienne est plus trinitaire que christologique, elle n'est pas dépourvue d'ambiguïté. Elle peut recevoir une interprétation abstraite dans le sens d'une vacuité, et le fait qu'il compare l'union finale des intellects avec Dieu, avec les eaux des rivières qui se jettent dans la mer, va dans ce sens. Par contraste, celle de Cassien est profondément christologique. C'est une transfiguration de la personne et non son abolition. Elle se fonde sur la vision du Christ transfiguré sur le Tabor. Il en a fait lui-même l'expérience, comme il le dira à la fin de sa vie. « Je vois un éclat indicible, une clarté inexprimable. Je vois une splendeur insupportable à la faiblesse humaine et au-delà de ce que peuvent soutenir les yeux mortels, la majesté de Dieu brillant d'un éclat incomparable. » Collimitation du Christ permet de transcender la nature humaine par grâce afin de contempler la gloire divine du Christ. C'est là tout le sens de la scientia spiritualis, de la contemplation fondée sur la prière et la méditation spirituelle de l'Écriture. Il ne faut en aucun cas rester au niveau matériel qui était celui des idolâtres, mais par le Christ aller à la rencontre de la grâce divine. Il se fonde aussi sur le passage de saint Paul. « Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Pour Cassien, cette rencontre se situe au-delà du matériel et au-delà du sens immédiat de l'écriture. Le progrès dans la vie ascétique s'accompagne d'un progrès dans la prière et aussi dans la lecture de l'écriture. À mesure que par cette étude, notre esprit se renouvelle, les écritures commencent aussi à changer de face, dit-il. Une compréhension plus mystérieuse nous en est donnée, dont la beauté grandit avec nos progrès. C'est une rencontre avec le Christ transfiguré en montant avec lui sur le Tabor. Jésus ne laisse pas de se montrer aussi aux habitants des cités, des bourgs et des villages. J'entends à ceux qui s'adonnent aux œuvres de la vie ascétique, mais non point dans le même éclat de gloire avec lequel il apparaît aux âmes assez fortes pour gravir avec lui sur les montagnes des vertus, comme Pierre, Jacques et Jean, et tel qu'il apparut en effet à Moïse et parla au prophète Élie dans la solitude. Il y a là une certaine différence entre Évagre et Cassien. Évagre hésite à sortir de l'intellect. Cassien le transcende dans l'extase. On a pu trouver beaucoup de points communs entre saint Jean Cassien et la tradition des homélies macariennes et comparer la synthèse qu'il réalise entre Évagre et les homélies macariennes avec celle de Diadoque de Fautissée. Celui-ci, contemporain de Cassien, fut évêque de Fautissée en Épire. Il participa au concile de Chalcédoine et rédigea un ouvrage important pour des moines qu'il connaissait, les chapitres gnostiques. Nous nous trouvons ici vraiment aux origines de la prière hésychaste. Celle-ci se fonde essentiellement sur la scientia actualis et la meditatio. C'est ainsi que Cassien traduit le mot grec mélété. Mélété, mot à mot méditation, ça veut dire en fait répéter, ruminer l'écriture. Elle est la suite logique de l'antirétique et de la prière monologique. L'antirétique était une forme de prière qui consistait à utiliser un verset de l'écriture spécifique pour riposter à l'attaque des pensées. Évagre avait composé un ouvrage rassemblant des versets de l'écriture classés suivant les différentes pensées perturbatrices. L'antirétique s'inspire directement du Christ. Lorsque le Christ a été tenté dans le désert, il a chaque fois répondu à Satan par un verset ou par un passage de l'écriture. La prière monologique s'inscrit parfaitement dans la problématique de la prière pure. Il s'agit de fixer l'intellect qui a tendance à vagabonder sur un verset de l'écriture. C'était une pratique courante parmi les moines. Et déjà, Ammonas, disciple de saint Antoine, recommandait aux moines de rester assis dans sa cellule en méditant continuellement la parole de publicain dans son cœur, « Aie pitié de moi, pécheur ». Cela permet aussi de prier tout en travaillant et de pouvoir répondre à l'injonction de saint Paul, « Prier sans interruption », qu'on peut ainsi concilier avec la nécessité de travailler qu'il recommande afin d'être charge de personne. Marc le Moine, contemporain de Cassien, utilisera l'expression de prière monologique. Cassien, quant à lui, préconisant des prières brèves mais fréquentes afin que nous puissions, en priant Dieu plus souvent, adhérer constamment à lui, brèves pour éviter par ce moyen les traits dont le diable nous attaque et dont il s'efforce de nous accabler au moment de la prière, proposera la récitation du verset 2 du psaume 69, « Deus, in adjutorium meum intende, domine, ad adiuvandum mihi festina. Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. » C'est assez curieux, d'ailleurs, j'ai assisté à un office de vêpres, de bénédictins, et l'office commence par ce verset. Donc on peut voir là, en quelque sorte, un reste de l'influence de Cassien. Diadoque de Fautissée suggérera quant à lui la répétition du nom de Jésus, mettant cette pratique en relation avec la vision de la lumière de l'intellect. Voici ce qu'il dit. L'intellect, le nous, réclame de nous d'une manière absolue, lorsque nous fermons toutes ces issues par le souvenir de Dieu, une œuvre qui doit satisfaire pleinement sa capacité d'exercice. Il faut donc lui donner le Seigneur Jésus comme la seule occupation pour arriver entièrement à ce but. En effet, il est dit, personne ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint. Cependant que sans cesse, dans son cellier intérieur, il tienne son regard si étroitement fixé sur cette parole qu'il ne s'en détourne pas par des imaginations. En effet, tous ceux qui méditent sans cesse ce nom saint et glorieux dans la profondeur de leur cœur deviennent aussi un jour capables de voir la lumière de leur intellect. Car si ce nom est retenu par la pensée avec un soin étroit, il consume toutes les souillures qui peuvent surnager dans l'âme. Désormais, toute la spiritualité de l'Église orientale s'inscrira dans cette problématique. Dorothée de Gaza enseignera à son fils spirituel Dosité la répétition de la formule « Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi et Fils de Dieu, aide-moi ». Établissant ainsi la tradition de la prière de Jésus, dont on a retrouvé une inscription en copte contemporaine des débuts de l'islam sur le site même des Kélia. Plusieurs textes coptes datant du 1er siècle de la domination arabe font allusion à cette pratique en l'attribuant au grand Macaire. Cette prière permet de faire l'expérience de la prière pure qui transcende à la fois les images et le langage selon l'apophtègme de saint Antoine. La prière n'est point parfaite où le moine a conscience de soi et connaît qu'il prie. La prière hésychaste suppose un au-delà de la prière, qui n'est plus limitée par une image, mais une vision avec les yeux du cœur. Voir Dieu, pour Cassien, c'est aussi participer à la circulation d'amour qui s'exprime entre le Père et le Fils, comme saint Jean l'énonce dans la prière du Christ lors de la scène, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi avec toi, ce que Cassien exprimera ainsi, quand tout amour, tout désir, toute ardeur, tout effort, toute notre pensée, tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons, tout ce que nous respirons, sera Dieu. Et quand cette unité, qui est maintenant et celle du Père avec le Fils, et du Fils avec le Père, aura été répandue dans notre perception et notre esprit, c'est-à-dire que, comme il nous témoigne une tendresse sincère, pure et indélébile, nous lui soyons liés en retour par une affection perpétuelle et immuable. Ainsi serons-nous, pour ainsi dire, accouplés à lui, en sorte que tout ce que nous respirons, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous disons, soit Dieu. Je voudrais lire le passage en latin, parole de Cassien. Illa quae unitas, quae nunc est patris cum filio, et filii cum patre, in nostrum fuerit sensum, mentemque transfusa, id est ut quod ad modum nos illa sincessira, pura atque indis dissobili diligit caritate, nos quoque ei perpetua et inseparabili dilectione, jung amor, ita, scilis et eidem copulati, ut quid spiramus, quid intelligimus, quid loquimur, Deus sit. Je vous remercie.
Peut-être une observation et en même temps une question pour vous. Enfin, il y en a plusieurs parce que l'entretien était particulièrement riche. Vous avez bien souligné que Jean Cassien avait, si je vous ai bien compris, habilement esquivé et renoncé à citer Évagre et Origène. Alors bien sûr, il y a un climat de condamnation qui peut expliquer cela. Et donc on retrouve ici la prudence classique des pères. Mais plus profondément, en dehors de cette prudence, vous le sentez très éloigné ?
Très. Très éloigné. Et je pense, si vous voulez, que le séjour qu'il a fait à Constantinople auprès de Saint Jean Chrysostome a eu une influence aussi très importante. Sur quel point il est éloigné ? Par exemple, sur la conception de la double création, qui est un point important, bon, qui est complètement écarté chez Saint Jean Cassien. Sur la conception du Christ, qui est quand même souvent légèrement, il y a un peu de subordinationnisme chez les origénistes, alors que pas du tout pour Cassien. Sur l'apocatastase, Cassien n'y fait jamais allusion, c'est pas du tout dans ses préoccupations. Non, je crois qu'il y a une rupture profonde. Je crois qu'il a, en quelque sorte, agi un peu comme un filtre.
C'est ça.
Et je crois aussi que c'est la richesse de la tradition de l'Église. Et je lui rends hommage. La tradition de l'Église a retenu les œuvres des vagues qui avaient un caractère ascétique parce que dans ces œuvres, il ne faisait aucune allusion à ses conceptions origénistes. Et donc, elles étaient incluses dans une autre perspective. La tradition de l'Église est quelque chose d'ouvert. C'est quelque chose de souple. L'Église n'est pas coupée non plus du monde et de son milieu. Il y a une espèce de dialogue, mais en même temps, il y a un filtre. Voilà. Donc, et ça, je trouve ça tout à fait remarquable.
Alors, on est au IVe siècle, et donc, j'ai envie de vous entraîner sur un terrain plus glissant, qui est, non pas l'influence, mais... Grégoire de Nice, par exemple, est extrêmement apocatastasique. Il y a chez lui cette ambiance générale. Je parle essentiellement dans la création de l'homme, par exemple. Et puis, il y a aussi chez Grégoire de Nice une explication de la double création. Alors, d'un côté, c'est intéressant parce qu'on est pratiquement à la même époque. On a un Grégoire de Nice qui n'hésite pas à parler de la double création. Et vous avez un Cassien qui ne rentre pas du tout dans ce schéma.
Non. Et je voudrais faire deux remarques. D'abord, il faut bien voir que Origène s'est avancé sur un certain nombre de points sur lesquels le dogme n'avait pas encore été fixé.
Exact.
Et donc, on ne peut pas dire qu'il était à rupture avec les dogmes. Non, parce qu'il n'y avait pas de dogme à l'époque. Bon, on peut dire simplement qu'il a élaboré un certain nombre de choses, etc. Ensuite, on a beaucoup révisé les condamnations qu'on avait faites contre Origène. On les a, disons, tempérées. Je pense encore récemment, enfin, il y a quelques années, Michel Fédoux a écrit un ouvrage sur le Christ d'Origène en montrant qu'Origène n'était pas aussi subordinationniste que ça. Bon, il est certain aussi que vous avez eu un durcissement, je crois, des positions origénistes qui s'est fait au travers des vagues et des moines postérieurs, et en particulier des moines de Syrie-Palestine. Et que les condamnations qui ont eu lieu au concile de Constantinople, d'ailleurs, les condamnations au début ont surpris un peu tout le monde. Parce que, je veux dire, parmi les chercheurs dans les années 50, on ne savait pas très bien qu'est-ce qui était condamné. On ne trouvait pas dans les textes, que vous savez que quand on condamne, les condamnations sont toujours très précises, on condamne des passages, on condamne des termes, ce n'est pas des condamnations en l'air. Mais on ne trouvait pas les textes, des bribes. Mais... Et c'est Guillaumont, je crois, qui a fait un travail remarquable, parce qu'il a retrouvé la principale œuvre des vagues qui est susceptible d'être condamnée, C'est-à-dire les chapitres gnostiques, il l'a retrouvé en syriaque. Là, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il l'a retrouvé en syriaque, mais qu'il l'a retrouvé sous deux formes. Une forme allégée, si je peux dire, light, et une forme beaucoup plus accentuée. Et la forme light, c'est elle qui a influencé en quelque sorte le milieu syriaque. Et cette forme light a été reprise même dans les œuvres complètes des Vagres publiées par l'Église de Grèce. Bon, c'est-à-dire qu'elle est moins marquée par les conceptions originistes. Mais de toute façon, les conceptions, les thèmes originistes existent, et c'est ce qu'a montré Guillaume, et ils ont été condamnés à juste titre. Voilà. Ensuite, il faut faire attention, parce que souvent, on ne parle tout à fait la même chose sous les mêmes termes. L'apocatastase est un terme qui est employé par d'autres mystiques chrétiens dans le sens d'un rétablissement de l'univers et pas dans le sens originiste. Qu'est-ce que voyait Origène, enfin les originistes plutôt, il voyait une sorte de rétablissement de l'ensemble des catégories, c'est-à-dire même les démons, le diable, etc., qui seraient en quelque sorte comme une sorte de machine à laver par phases successives qui seraient rétablies dans l'union avec Dieu. Ça, c'est une vision de l'apocatastase qui est originiste. Et il y a une autre vision qui est elle beaucoup plus proche, qui est proche, et qui est celle de la tradition chrétienne, qui est celle de la montée vers Dieu et qui est tout à fait différente.
Je suis sûr que vous avez lu les comptes rendus du Concile de Constantinople, et en latin et en grec, dans les collections que nous avons. Pour ma part, j'ai tenté de le faire parce que je recherchais quelque chose de précis qui n'a rien à voir avec cette discussion. Mais je ne me souviens pas avoir vu la condamnation d'Origène comme personne. Les thèses originistes, peut-être. Et encore, il me semble que la condamnation d'Origène est... c'est la fameuse lettre impériale, mais ça n'a pas grand-chose à voir.
Bon, mais vous avez des condamnations d'Origène qui vont se produire. C'est une histoire un peu compliquée, parce que vous allez avoir Épiphane de Chypre, dans son Panarion, donc, qui va s'en prendre assez violemment à Origène. Vous allez avoir aussi un revirement de Jérôme, qui, ayant été marqué par l'originisme, va ensuite se retourner contre l'originisme. Vous allez avoir aussi une attitude fluctuante du patriarche même d'Alexandrie, Théophile, qui apparemment, c'est ce que disent les spécialistes, ces condamnations d'Origène et d'originisme auraient des raisons pas très claires, enfin pas très pures en tout cas. Et puis vous avez aussi l'hostilité entre le siège patriarcal d'Alexandrie et le siège de Constantinople avec saint Jean Chrysostome. Et donc l'hostilité entre le patriarche d'Alexandrie et voilà. Et Cassien, là-dedans, apparaît vraiment comme un lien. Parce que non seulement il va jouer ce rôle de filtre, en quelque sorte, mais il va aussi défendre, en quelque sorte, Jean Chrysostome, qui va être violemment attaqué par le patriarche d'Alexandrie Théophile. Il va y avoir le concile du Chêne, qui va s'en prendre directement à Chrysostome. Cassien va aller à Rome, plaider la cause de saint Jean Chrysostome. Bon, et saint Jean Chrysostome va marquer profondément Cassien. Et ce que l'on dit d'habitude, c'est que son nom même de Jean Cassien vient de Jean Chrysostome, en fait. C'est-à-dire qu'il a été marqué profondément par la personnalité et la spiritualité de saint Jean Chrysostome. Et on voit bien, si vous voulez, que sa conception est profondément intéressante et orthodoxe, et on le voit en particulier dans son traité sur l'incarnation. À quel point sa conception des deux natures, sa conception équilibrée des deux natures, et à quel point aussi son traité va influencer en quelque sorte le concile de Chalcédoine par la suite. Et donc c'est pas un hasard aussi si le pape Léon va lui demander de rédiger donc un traité contre Nestorius parce qu'il sait très bien à qui il s'adresse. Voilà. Par la suite, Cassien va se heurter aussi à Augustin et ses positions sur la grâce, mais on y reviendra plus tard.
Merci bien, merci beaucoup.
Est-ce que dans son œuvre, il n'a jamais. On comprend bien qu'il était orthodoxe, mais Jean-Christian. Mais est-ce qu'il a jamais contredit, on va dire directement, ou condamné, en guillemets, son ami Évagre, ou ça se passait pas comme ça entre les amis?
Non. Vous savez, c'était une situation un peu compliquée, parce que. Il avait été proche d'Évagre, il défendait toujours une vision équilibrée, modérée, tempérée du monachisme, qui s'opposait aussi, sans le dire, tout en le disant, à celle de Saint Jérôme. Or, Saint Jérôme était un adversaire potentiel extrêmement redoutable, qui était aussi un grand pourfendeur d'origénistes. Donc il a dû en quelque sorte avancer, et il a avancé toujours de façon, on va dire, ecclésiale, mesurée, pondérée, en tenant compte, en essayant de faire l'unité. Et ça, vraiment, son importance, son influence, à mon avis, est considérable dans le monde chrétien. Sa prise de position, sa défense de Saint Jean Chrysostome, sa vision du monachisme, sa vision de l'incarnation, tout ça, n'est-ce pas, qu'il va en quelque sorte transférer en Occident par ses écrits, ça va jouer un rôle extraordinaire. Malheureusement, il ne va pas avoir, mais ça on en reparlera, il n'aura peut-être pas toute la réception qu'il aurait mérité d'avoir, parce qu'il va se heurter à Augustin. Et c'est précisément là que ça va, en quelque sorte, coincer, entre guillemets, c'est que, question de la grâce, etc., il va être condamné, c'est pas une condamnation très dure, hein, parce que tout le monde respecte Cassien, partout. Mais on va condamner sa position sur la grâce, et en particulier une de ses conférences, je crois que c'est la 13e conférence, qui après ça va même être parfois expurgée des œuvres de Cassien. Donc c'est pour cela, si vous voulez, que sa réception va être un peu freinée. Mais là où il va rencontrer, je crois, aussi un impact énorme, c'est sa vision pacifié, équilibré du monachisme, qui va se transmettre en quelque sorte en Occident et jusqu'à la règle de Saint-Benoît. Et Saint-Benoît, qui d'ailleurs recommande à ses moines la lecture de Cassien. Donc je veux dire, voilà, la boucle est bouclée. Et, bon. Et donc, voilà, et je crois que Saint-Jean Cassien a joué un rôle permanent, en profondeur, en Occident. On peut regretter qu'il n'ait pas eu toute la diffusion qu'il aurait mérité d'avoir, mais en tout cas, ceux qui l'ont lu l'ont parfaitement compris.
À propos de cette réception, il y a une question venue par Internet. Quid de la canonisation de Saint Jean Cassien? Il est si proche des vagues, ferveur populaire?
Non, non. Vous savez, je crois qu'il y a une différence. Dans l'Église orthodoxe, Saint-Jean Cassien est un saint. Dans l'Église catholique, non. Bon, parce qu'il y a, une certaine réticence à cause, je pense, surtout de cette question de la grâce. Mais je ne crois pas du tout qu'il y ait une acquaintance profonde avec Évagre. Je crois qu'il a repris, il a compris, si vous voulez, le schéma que Bach proposait, il a repris le vocabulaire des Bach, mais il n'est pas le seul. Vous trouvez ça chez Maxime le Confesseur, vous trouvez ça chez Saint Grégoire Palamas, vous trouvez ça en toute la tradition orientale. C'est-à-dire que la tradition orientale va utiliser, si vous voulez, le cadre, la lecture qu'a fait Évagre de la vie ascétique, mais en lui donnant un contenu différent de celui d'Évagre. Quoique Évagre, dans ses œuvres ascétiques, se soit retenu en quelque sorte, il n'ait pas donné le fin mot de sa pensée, il l'a retenu pour certaines œuvres plus spécifiques, comme les chapelles gnostiques, les Kephalaya Gnostica, et encore avec deux versions, une version, etc. Enfin, voilà. Donc, non, pas, il y a vraiment pas de lien profond avec Évagre, non, je ne crois pas. Il y a un lien peut-être, et ça c'est peut-être une piste à explorer, si jamais, voilà, il y a un travail à faire sur la relation entre Cassien et Saint-Jean Chrysostome, par exemple. Ça serait vraiment intéressant. À mon avis, ça n'a pas été fait, ça, à ma connaissance. Et là, vraiment, il y a quelque chose aussi à chercher, à trouver. Voilà.
Il est peut-être le 28, 29. C'est lui qui est fêté le 29 février, Saint-Jean-Cassien.
Oui, je crois.
Parce que il y a une histoire qui est transmise. Moi, je l'ai lu dans un livre du Monseigneur Antoine de Transylvanie, qui est mort il y a 10 ans, le métropolite de Transylvanie, un temps hebdomadaire. Il raconte cette histoire sur Saint-Jean-Cassien. Il dit qu'ils ont été appelés, Saint Jean Cassien et Saint Nicolas, ils ont été appelés par Dieu, et qu'ils allaient tous les deux en chemin, et qu'en allant vers l'appel de Dieu, ils ont rencontré un paysan qui, dans la charrue, et s'est enfoncé dans la boue. Enfoncé dans la boue, et ne pouvait plus sortir sa charrue. Et l'histoire dit que Saint Nicolas, il a tout de suite, s'est tout de suite préparé pour pousser la charrue du paysan, et que Saint Jean Cassien, il était bien habillé et tout ça. Il dit: comment tu veux qu'on pousse la charrue, et après on arrive devant le Seigneur comme ça, les vêtements et les mains sales. Et l'histoire finit comme ça, que c'est pour cela que Saint-Nicolas, il a plusieurs fêtes dans le calendrier, et que Saint-Jean-Cassien, il a une fête, et c'est le 29 février, tous les 4 ans.
En tout cas, c'est un grand saint, je crois, et vous voyez que c'est un homme qui a, en quelque sorte, et ça, on verra ça par la suite, qui a vraiment fait le lien entre l'Orient et l'Occident. Et c'était pas évident, parce que par exemple le monachisme qui s'était développé, on y reviendra, le monachisme qui s'était développé en Occident, on insistait beaucoup sur l'homme exceptionnel, l'ascète extraordinaire qui fait des choses, etc., etc., des miracles. Or, l'attitude de Cassien va être complètement différente. Il va, au contraire, présenter un monachisme intérieur, un monachisme collectif, un monachisme d'épanouissement spirituel. Et ça, c'est très important. Il va s'orienter plutôt dans cette direction, qui n'exclut pas, évidemment, l'ascétisme, mais qui est, en quelque sorte, une phase collective préliminaire pour aller plus loin. Et pour Cassien, en quelque sorte, et ça, c'est, je crois que c'est aussi important à comprendre, et pour beaucoup de gens de son époque, Pacôme aussi, d'une certaine façon, au fond, ce qu'ils vivent, le monachisme qu'ils vivent, c'est simplement la vie chrétienne. C'est-à-dire que pour eux, c'est ça, la vie chrétienne. C'est à l'image des premières communautés chrétiennes. C'est ça qu'ils veulent. Vous voyez, C'est pas quelque chose d'exceptionnel, etc. Non, pour eux, c'est ouvert à tous et c'est destiné à tous. C'est une vie chrétienne. C'est comme ça, c'est leur sens, c'est leur conception de la vie chrétienne.
Il n'y a peut-être pas une question, mais une demande. Merci pour cet exposé clair. Pourrions-nous avoir une fiche reprenant les termes un peu complexes ?
Absolument. Je vais vous laisser les tableaux, là. Je vais vous laisser les deux tableaux et vous pourrez les télécharger sur le site.
Et serait-il possible d'avoir plus d'informations sur les courtes invocations, mais un lien Internet, une source à ce sujet ?
Pardon ?
Sur les courtes invocations, les Méléti, comment on dit, les méditations ?
Oui. Disons que la pratique courante, absolument courante des moines, en particulier en Égypte, était fondée sur une méditation de l'écriture. Cette méditation, cette mêlété, était aussi une répétition. Et le moine répétait en quelque sorte des versets de l'écriture. Et au travers de cette méditation, au travers de cette répétition, il y avait aussi un approfondissement du sens de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a, au fur et à mesure que le moine développe sa prière, il y a une ouverture vers une compréhension de plus en plus spirituelle. Par ailleurs, il est clair que une des choses que les pères ont très bien vu, c'est que nous avons un nous qui est très mobile, qui nous sommes très rapidement sollicités par à droite, à gauche, etc. La répétition là, permet de fixer le nous, en quelque sorte, de l'empêcher de se déplacer à droite, à gauche. Par ailleurs, la répétition de versets de l'écriture, tirés généralement des psaumes, n'est pas trop prenante. Et donc, elle permet de travailler. Et ça, c'est une question très importante. Parce qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé au début, par exemple, en Syrie, on distinguait deux sortes de chrétiens. On distinguait ceux qui priaient, puis il y avait ceux qui travaillaient. Alors, on peut dire que d'une certaine façon, c'est la résolution de ces deux thèmes. Peut-on à la fois prier sans cesse, puisque c'est l'injonction qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et gagner son pain à la sueur de son front. Saint Paul le dit aussi. Les moines de l'époque le faisaient. Donc, on peut dire qu'en Syrie, on n'est pas arrivé à joindre les deux. Et on peut dire aussi qu'en Égypte, on a fait une synthèse. Et c'est ça qui est intéressant avec l'Égypte, c'est que de ce point de vue-là, l'Égypte aussi est synthétique. Elle arrive à joindre des aspects qui peuvent paraître inconciliables. Peut-on prier et travailler en même temps, par exemple ? Avec ça, oui. Parce que le travail que faisaient les moines était un travail assez simple, en général. C'était beaucoup de travaux de vannerie. On faisait des cordes, des sandales, on tressait des choses. Puis il y avait ceux qui étaient plus comme Evag, par exemple, qui avait une formation plus poussée. Alors lui, il était calligraphe, donc il recopiait les textes. Mais le fait de recopier le texte est aussi une forme de prière, puisque je recopie un texte religieux. Donc voilà, donc il y a dans ce monachisme égyptien, alors ce qui est aussi très important, et un petit point qui me semble important, c'est qu'en fait, dans ce type de mêlété, vous priez tout le temps. Vous êtes tout le temps en prière. Et la prière collective n'est pas à moins d'importance. Vous êtes tout le temps en prière. Et donc, les offices que les moines étaient tenus de dire en Égypte étaient des offices brefs. 12 psaumes. La règle de l'ange, n'est-ce pas ? Et il n'y avait Alors qu'en Syrie-Palestine, on avait les heures monastiques qui étaient déjà plus sophistiquées, plus compliquées. Vous voyez ? Mais comme les moines égyptiens étaient constamment plongés dans la prière, ils avaient moins besoin de temps fixé de prière, comme les heures. Mais ils se retrouvaient évidemment pour les liturgies du samedi du soir et du dimanche, ça, bien sûr. Voilà. Donc, il y a cet aspect, si vous voulez, qui est un peu différent. Et Cassien, d'ailleurs, fera une sorte de synthèse, là aussi. Il va intégrer des éléments égyptiens, à savoir la prière monologique, et des éléments qui viennent de Syrie-Palestine, à savoir la prière des heures. Parce que ça lui semble plus adapté à la réalité de la Gaule, de l'époque. Voilà.
Comment est-ce qu'on va continuer la prochaine fois ?
Alors, ben, la prochaine fois, je voudrais aborder, disons, l'œuvre de Saint Jean Cassien, et donc les institutions cénobitiques. Et alors, à ce propos, je voudrais dire aussi qu'on les trouve sur Internet, hein, généralement, bon... Alors, vous pouvez les trouver sans problème sur Internet. Évidemment, c'est mieux d'avoir la collection Sources chrétiennes. Bon, la collection Sources chrétiennes, on la trouve dans les bonnes bibliothèques. Bon, ça, c'est sûr. Mais, bon, c'est pas non plus inaccessible. Bon, les bibliothèques un petit peu fournies l'ont. Mais sinon, vous avez sur Internet les institutions cénobitiques et les conférences de Saint Jean Cassien. Quoique parfois on est censuré, on a des vieilles éditions du 19e siècle où la conférence 13 sur la grâce est censurée. Même au 19e siècle. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout à fait passionnant.